Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est un délit qu'on connaissait mal jusqu'à l'affaire Pellicot. Bien avant son procès retentissant pourtant, la fille de Gisèle Pellicot, Caroline Darian, dévastée par ses découvertes, avait créé une association qui s'appelle M'endors pas, stop à la soumission chimique. Elle a aussi écrit un livre et réalisé un documentaire sur le sujet. Autant d'actions qui non seulement informent, incitent les victimes à parler et à porter plainte, mais aussi lui permettaient sans doute de garder la tête hors de l'eau. La soumission chimique est généralement présentée comme l'administration d'une ou plusieurs substances psychoactives à l'insu des victimes ou sous la menace à des fins criminelles ou délictueuses. Et parmi les membres de son association, Sandrine Josseau, députée de Loire-Atlantique, n'est pas simplement là pour lui faire bénéficier de sa surface médiatique ou politique. Sandrine Josseau, toute députée qu'elle soit, s'est trouvée le 14 novembre 2023 dans une situation de soumission chimique, impliquant de surcroît un sénateur qui a pignon sur rue. Depuis, Sandrine Josseau dénonce sans relâche le fléau de la soumission chimique et nous raconte tout de suite les faits tels qu'elle les a vécus. Je précise que le dit sénateur nie les faits qui lui sont reprochés et n'a pas souhaité répondre à nos questions. Il réserve l'entièreté de ses déclarations à la justice. En attendant le jugement, il est présumé innocent. Voici donc un récit recueilli par Claudia Prolongeau.
Je suis Sandrine Josseau, députée de Loire-Atlantique depuis 2017. Je suis née à Guérande, donc je suis élue dans la circonscription où je suis née. Donc Guérande, c'est à 5 km de la Baule. Et en novembre 2023, le 14 novembre, j'ai été invitée à une soirée par un sénateur de mon département, qui s'appelle Joël Guerriot. Ce sénateur, il m'a invité pour fêter sa réélection. Donc c'était quelqu'un que je connaissais depuis 10 ans, donc quelqu'un qui avait été élu plusieurs fois, un homme qui avait été aussi maire d'une commune de Loire-Atlantique. Pas du tout quelqu'un qui avait des comportements bizarres avec moi. Absolument pas, il m'a jamais dragué ou quoi que ce soit. D'ailleurs, au départ, il devait m'inviter au Sénat. Et quelques jours avant, mon collègue, qui était aussi député de Loire-Atlantique, qui devait venir avec moi, lui a dit que il venait pas parce qu'il avait un empêchement. Donc, ce sénateur a dit, au lieu de t'inviter au Sénat, je vais plutôt t'inviter chez moi. Donc, c'était à Paris et je suis allée sur ma pause. Entre 20h et 21h30, on a une pause à l'Assemblée nationale et je me suis rendue chez lui pour cette occasion. Et pour moi, c'était juste quelque chose qui se fait, c'est-à-dire fêter une réélection. Je le connaissais depuis longtemps et que je passais juste en visite de courtoisie. J'étais à l'Assemblée nationale, donc j'ai pris un taxi pour aller à l'adresse qu'il m'avait indiquée, donc à côté du Sénat. Et il y avait un digicode et je ne connaissais pas ce code, donc je l'ai appelé. Comme j'entendais rien, parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans la rue, il m'a envoyé par SMS le code et je suis montée au 4e étage. Il m'ouvre la porte, donc on est au mois de novembre. Donc, il fait noir dehors, c'est un petit appartement, rien de particulier. Et je m'assieds dans son salon et il propose une coupe de champagne. Je bois la première gorgée, je sens un goût bizarre, sucré dans le champagne. Mais comme moi, je bois pas beaucoup, je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est un mauvais champagne. J'ai relativisé, en fait. Et c'est après, au bout de quelques gorgées, j'ai eu des symptômes comme la tête qui tourne, des nausées, des tremblements. Et j'ai pensé à un moment donné que peut-être que c'était dû au fait que je n'avais pas mangé depuis le midi, mais je me disais dans ma tête, peut-être qu'il faut que je mange quelque chose et que ça ira mieux. Et là, il m'a servi des Faritas. Donc, je me sens toujours aussi mal et... Et puis en plus, il éteignait la lumière, il me mettait dans le noir et vraiment, c'était complètement en fait dingue avec tout ce qu'il faisait, mais qui était très préoccupant en fait. J'avais des battements du cœur, mais je n'ai jamais ressenti tous ces symptômes horribles où j'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. Et en même temps, dans ma tête, je me disais, mon Dieu, retourne à l'Assemblée nationale, il faut que tu retournes travailler dans l'hémicycle. Et je me disais, mais comment je vais faire pour retourner travailler? Et j'ai essayé de me mettre debout et je voyais bien que mes jambes tremblaient. Je panique dans ma tête, je pense à mes enfants, je me dis mais mon Dieu, je vais mourir, jusqu'à un moment où j'ai senti vraiment comme si mon cœur sortait de mon corps avec tout qui tremblait autour de moi et j'avais extrêmement soif. Je voulais de l'eau et c'est à ce moment-là que j'ai regardé ce qu'il faisait dans la cuisine et que j'ai vu qu'il avait dans sa main un sachet et là, j'ai pensé que c'était probablement de la drogue. C'était pour ça que j'avais tous ces effets. Et là, je me suis dit, Sandrine, il y a un gros problème. Quand je comprends que... il avait certainement dû me droguer. Je prends mon téléphone, j'appuie sur l'application de taxi et je commande un taxi et je lui dis je vais partir. Et il me dit des choses pour me retenir. Viens, on va faire la fête. Je lui disais mais qu'est-ce qu'on n'a pas de fête à faire. Enfin, je suis venue juste comme ça et moi je dois retourner travailler. Je n'écoutais pas ce qu'il me disait, je me concentrais sur mon équilibre parce que mes jambes flagellaient, j'avais peur et je voulais pas lui montrer que j'avais peur. Et je prends mon manteau, il me suit sur le palier. On était au 4e étage, il me dit de prendre les escaliers. Et comme je ne tenais pas sur mes jambes, je me dis « je peux pas prendre les escaliers, je vais tomber ». Et donc je lui dis « non, je prends l'ascenseur ». Donc il me colle dans l'ascenseur, il me suit dans l'ascenseur. Et l'ascenseur descend et il me suit dans la cour de l'immeuble. Et je me dis, mais il va me lâcher. Et il me suit dans la rue jusqu'au taxi. Et là, j'arrive dans le taxi, je m'écroule dans le taxi. J'appelle donc mon collègue de Loire-Atlantique. Je lui dis, Joël a mis quelque chose dans mon verre. Lui, il commençait à paniquer. Il était loin de l'Assemblée nationale parce qu'il aurait dû m'accompagner à cette soirée. Mais il a eu une autre soirée importante pour ses travaux parlementaires. Et c'est pour ça qu'il ne m'a pas accompagnée. Et en même temps, il me connaît depuis de nombreuses années. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais un AVC? Je dis, non, je ne fais pas d'AVC. Il a mis quelque chose dans mon verre. Donc, je raccroche et je savais que mon voisin d'hémicycle mangeait avec un autre collègue. Et j'envoie un message à mon autre collègue et je lui dis... quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre, je suis toute tremblante. J'arrive à l'Assemblée nationale, viens m'aider. Je ne peux pas sortir du taxi. C'est-à-dire que j'ai dit au chauffeur de taxi, attendez, un collègue va venir m'aider, j'arrive pas à sortir. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, on va attendre que quelqu'un vous aide. Et donc mon collègue arrive, il me sort du taxi, je ne tenais pas debout. Il me fait entrer à l'Assemblée nationale et... ce collègue, qui me connaissait depuis quelques années, a tout de suite compris que j'avais été droguée. Et il m'a donné des bonnes informations. Il m'a dit, il faut vite que tu ailles faire une prise de sang. Si tu as été droguée, il faut tout de suite le prouver. Et donc moi, vous savez, quand on est dans des situations comme ça, j'ai l'impression qu'il me parlait fort. En même temps, j'avais l'impression que j'allais faire un arrêt cardiaque. J'avais froid, j'avais chaud. Enfin, c'était horrible. J'avais soif. Et il me fait asseoir dans la salle des conférences de l'Assemblée. Et là, il appelle mon voisin d'hémicycle. Et je leur disais, je vais mourir. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont appelé directement le SAMU. Et le SAMU est venu me chercher et j'ai été emmenée à l'hôpital de la Riboisière. Et à la Riboisière, ils m'installent. Je ne peux pas tenir debout, hein. Je suis allongée tout le temps. Ils me mettent une perfusion. J'arrive à dire que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre. Donc, très vite, ils viennent me faire une prise de sang. Et là, j'attends. Et en même temps, je cherche à comprendre. Je demande au médecin, est-ce que ça arrive souvent que des personnes comme moi arrivent ? Et là, ils me disent, madame, c'est tous les jours, hein, plusieurs par jour. Oh, là, je me dis, mais c'est inadmissible. Donc, j'attends et mon collègue, qui pensait que je faisais un AVC, il arrive. Et je suis dans un délire, c'est-à-dire que l'infirmière me montre la carte de mon collègue, mais je croyais que c'était le sénateur qui me poursuivait. Parce que je vois juste bleu, blanc, rouge. Et après, c'est bon, je le reconnais. Et mon collègue me dit, mais soit tu as un grave problème de santé... Soit c'est une affaire d'État. Et là, quelques heures après, le médecin arrive. Et le médecin me dit, madame, vous avez bien été droguée, il y a la dose. Hein. Plus de 3 fois la dose récréative, avec donc de la MDMA, qui est donc un des composés d'ecstasy. Il faut savoir qu'on peut mourir, en fait, quand on a ce genre de dose. Après, les médecins m'ont expliqué que s'il éteignait la lumière, il me mettait dans le noir et après il rallumait brutalement. Enfin, c'était pour activer les effets de la drogue. Et là, on se sentait tout petit. On s'est dit, 2 petits députés contre un sénateur, comment on va faire ? On envoie un message à la présidente de l'Assemblée nationale. Elle nous rappelle, mon collègue m'aide à parler parce que j'explique à la présidente de l'Assemblée ce qui s'est passé. Elle dit, il faut tout de suite porter plainte. Vous allez au commissariat du 7e. Donc, on n'avait pas dormi de la nuit et on va au commissariat. Là, on est accueillis. Et donc, on rentre dans un bureau avec un officier qui... nous pose des questions, donc je raconte, hein, et au fur et à mesure du temps, l'officier dit « Ah non, mais là, on arrête tout, faut que j'appelle ». Donc je pense qu'il a dû appeler un de ses supérieurs, et là, c'est 2 personnes de la police judiciaire qui viennent me chercher dans le commissariat et qui m'emmènent dans les locaux de la police judiciaire, je raconte et je dis que j'ai vu qu'il avait dans sa main un sachet qu'il a rangé dans la cuisine. Et là, donc c'était des femmes, elles me disent « Madame, quelqu'un va vous emmener pour un prélèvement de cheveux et nous, on va faire une perquisition ». Et ils ont trouvé, grâce aux chiens et aux indications que je leur avais données, ce sachet de drogue, et il a été tout de suite mis en garde à vue. Donc voilà, après une nuit sans sommeil, je vais donc avec 2 autres policiers dans un laboratoire pour me faire prélever les cheveux. Donc ça, c'est assez traumatisant d'ailleurs, parce que se faire couper les cheveux à ras de la tête comme ça, c'est très invasif. Pendant plusieurs mois, moi, j'ai eu des mèches beaucoup plus courtes. Quand j'allais chez le coiffeur me disait « Tiens, qu'est-ce qui vous est arrivé, là ?» Donc, ça reste pendant quelques temps. Puis lui, il m'a appelé plusieurs fois dans cette journée-là, quand j'étais avec les policiers. J'étais terrorisée en même temps. Je me suis dit « Il faut que j'en parle à mes enfants. » Donc, j'envoie un message à ma grande fille, faut que je te parle. Et donc, j'explique à ma fille qui était avec son compagnon. Bon, ils étaient tous les 2 sidérés. Et j'avais aussi des journalistes qui m'envoyaient des messages parce que, comme j'ai eu un malaise à l'Assemblée, que je suis partie dans une ambulance de l'Assemblée, certains journalistes me connaissent. Donc, je répondais rien. Et après, le lendemain, Les policières m'appellent en disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour faire une confrontation ? Il est en garde à vue. » Et là, je me dis « Bah oui. » La première confrontation, c'était 2 jours après les faits. C'est dans une pièce sans fenêtre. Nous étions 4 dans la pièce, son avocat, mon avocat, nous 2 et une femme, donc policier, qui était derrière son ordinateur, qui nous posait des questions. Et lui, en fait, se plaignait parce qu'il était en garde à vue depuis au moins une journée. Ça a duré 2 heures, moi j'étais épuisée, au bout d'une heure et demie je me suis mise à pleurer, je tenais plus le coup. Et lui il disait que c'était un sénateur qui lui avait donné la drogue, que c'était parce que son chat était mort et qu'il avait un ami en phase terminale de cancer, qu'il était très perturbé, que en fait il avait eu cet euphorisant naturel et que c'était pour lui qu'il s'était trompé de verre, enfin... quelque chose de complètement abracadabrantesque. Et je disais à l'avocate, je suis encore sous les effets de la drogue, ou on a bien entendu, là. C'est complètement incohérent, en fait, dans ses propos. Il y a une inconstance dans tout ce qu'il déclare. C'est très choquant d'entendre tout ça, parce que on a l'impression de ne pas avoir vécu la même histoire. Et moi, il me dit juste qu'il est désolé. Et... le vendredi, le 17 novembre, Joël Guerriau est mis en examen et donc placé sous contrôle judiciaire. J'essaie de quitter Paris. C'était très difficile parce que je n'arrivais plus à aller dehors... sans être sur le qui-vive, je n'arrivais plus à prendre le métro. Un de mes collaborateurs m'a accompagnée jusqu'à la gare Montparnasse. J'avais peur de tout, du bruit, des gens. Et donc, je monte dans le train. Et j'étais en pleurs dans le train parce que j'arrivais pas à marcher, en fait, d'une voiture à une autre. Et puis, j'avais peur de le recroiser dans le train. Enfin, c'était horrible. Et j'arrive chez moi à la Baule. Et je m'enferme, en fait. Je peux plus sortir, j'ai peur de tout. J'ai quelques messages, des collègues qui veulent prendre de mes nouvelles. Toujours les journalistes qui essaient de savoir si c'est moi. Et là, je dis à mon avocate, de toute façon, là, je vais m'emparer du sujet. C'est horrible de vivre des trucs pareils. Je vais le dire publiquement. Et donc, je choisis d'aller sur un plateau de 7 à vous. Comme j'ai rendu cette affaire publique, il y a une victime de Joël Guerriau qui a appelé les enquêteurs. Elle a expliqué le même mode opératoire, les faritas. D'ailleurs, j'ai appris que c'est ce genre de plat qui est souvent utilisé par les agresseurs en fait, pour dissimuler les drogues parce que c'est épicé. Par contre, elle s'est réveillée le lendemain, donc c'était certainement pas la même substance que moi. Et elle n'a pas souhaité porter plainte parce qu'elle n'avait pas de preuves. Et puis, c'était très difficile pour elle de porter plainte. Il faut savoir que c'est une victime qui a malheureusement pas pu se réparer. Je reviens à la Baule et je reste... chez moi, en convalescence. Et là, je travaille avec mes collaborateurs. Je leur dis qui s'occupe de ça, comment ça s'appelle. Marlène Schiappa me dit que c'est la soumission chimique. Je regarde qui travaille dans ce secteur. J'ai la fille de Gisèle Pellicot qui veut entrer en contact avec moi. Donc moi, je suis pas du tout au fait de tout ça. Et elle m'explique. Quand je vais un petit peu mieux, je la rencontre à Paris. On se lie d'amitié et elle me fait accéder aussi à un réseau de professionnels qu'elle a déjà côtoyé. On avance et de là, je décide de demander une mission gouvernementale quand je vais un petit peu mieux parce que les fêtes sont passées au mois de novembre et je suis revenue dans l'hémicycle, je crois, au mois de janvier. C'était très difficile. Je suis revenue dans l'hémicycle un mardi après-midi, mais le matin, je suis allée pour me mettre en confiance, mais je faisais que de pleurer. J'arrive même plus à composer un code sur un digicode. C'est parce que, en fait, dans cette soirée, j'ai composé un code sur un digicode avant d'entrer. Bah, dès que j'étais en face d'un digicode, j'étais terrorisée. En fait, c'est comme si vous étiez toujours au moment où ça vous est arrivé, alors que des semaines, des mois passent. Mais c'est figé, c'est comme si vous étiez dans une voiture, le pied sur l'accélérateur et la main sur le frein à main. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup avec la psy. Et là, en fait, quelques semaines après, j'obtiens cette mission gouvernementale. Il y a un changement de gouvernement parce que c'était tout d'abord sous la ministre Borne que j'avais parlé dans l'hémicycle la première fois. Et c'est le gouvernement Attal qui m'a donné ma mission. Et là, je commence à auditionner des professionnels, des victimes. Il faut savoir que j'ai des mails de partout, des messages sur Instagram de victimes, sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn. Je me dis, mais c'est des milliers de personnes à qui ça arrive. Et ces agresseurs, ils agissent en série. On le voit dans beaucoup de procès. Hein. Je pense par exemple pour le procès de Dominique Pellicot, mais aussi le procès Le Squarneck, parce que c'est très difficile en fait de prouver que vous avez été drogué, pour plein de raisons. Déjà, il faut savoir que les symptômes qu'on a, lorsque quelqu'un met quelque chose dans notre verre, par exemple, une drogue ou un médicament, ça s'apparente à des symptômes d'ébriété. Donc parfois, on croit qu'on a trop bu. Et en fait, c'est tout simplement que quelqu'un a mis quelque chose dans notre verre. Donc c'est très compliqué. Il y a différentes drogues. Il y a des drogues qui vont vous sédater, des médicaments qui vont vous sédater. Il y a des drogues qui vont vous désinhiber, c'est-à-dire qui vont faciliter votre consentement. C'est ça qui est terrible. Et ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a des inégalités territoriales. Moi, ça m'est arrivé à Paris, donc il y avait un hôpital spécialisé en toxicologie qui a pu me prendre en charge. Mais si ça vous arrive en ruralité, ben, vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que vous ne pouvez pas avoir accès facilement à un prélèvement de sang et d'urine. Et en plus, c'est un contre-la-montre parce que ces substances disparaissent très rapidement du sang. Et c'est bien cela le problème, c'est que comme aujourd'hui, l'accessibilité à la preuve est difficile, ça facilite la vie de tous ces agresseurs qui savent qu'ils ont très peu de chances d'être mis en cause et arrêtés et punis. Et aujourd'hui, je m'estime guérie. C'est aussi très important de comprendre qu'on peut guérir, mais qu'il y a des conditions pour la guérison. Et je me bats pour que toutes ces conditions existent. J'ai parlé parce que des médecins, toutes ces personnes, en fait, m'ont alertée en me disant qu'il fallait faire quelque chose. Et en tant que députée, je me suis dit que je ne pouvais pas me la fermer sur ce sujet-là. Je m'en fichais, en fait, qu'on me croit ou qu'on me croit pas. C'était pas le sujet, je dénonçais. Ça, c'était le plus important. Après, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, c'était pas mon problème. Et aujourd'hui, je le regrette pas d'avoir parlé. Hein, parce que quand j'entends des victimes qui sont dans l'ombre, des victimes qu'on n'a pas crues, ces victimes, elles sont très seules. C'est aussi mon engagement en tant que femme politique de porter leur voix et d'arrêter d'invisibiliser toutes ces personnes qui ont des souffrances immenses. Parler, c'est se libérer. Et être dans le silence, c'est quelque part accepter, en fait, aussi parfois l'inacceptable. Quand il y a une instruction comme ça, à la fin de l'instruction, le juge, hein, là c'est deux juges d'instruction d'ailleurs, convoque en fait le mis en cause et la victime pour une confrontation de fin d'instruction. En fait, il y a une croyance qui dit que lors de la confrontation en fin d'instruction, le mis en cause peut avouer. Mais en fait, il avoue jamais. Enfin, donc cette confrontation a eu lieu donc au tribunal judiciaire de Paris au mois de novembre 2024, un an après les faits. Et les juges m'ont posé les mêmes questions. Enfin, les questions habituelles. Donc, moi, j'ai répondu avec constance. Et lui, ce jour-là, il est arrivé avec deux sachets d'instruments de magie. Et il a dit que ce soir-là, il voulait me faire des tours de magie. Donc, c'était encore une fois quelque chose de dingue d'entendre ça. Il a dit au juge... qu'il souhaitait leur montrer les tours de magie. Le juge n'a pas voulu. Et à la fin de la confrontation, il a souhaité repartir avec ses deux sacs d'instruments de magie. Et les juges ont voulu les garder. Ce qui est maintenant attendu, c'est la conclusion de l'instruction. Et je l'espère, un procès pour lui. Très étonnant, c'est que Joël Guerriot a été pris en flagrant délit. Suite à ça, il n'a pas été démis de ses fonctions. Rien n'a été acté précisément pour l'y contraindre. Quand il a été donc mis en garde à vue, il est allé voir quelques jours après le médecin du Sénat qui l'a mis en arrêt maladie pour de nombreux mois. Cet arrêt maladie a pris fin au bout d'un an, je crois, et il a souhaité recontacter le président du Sénat, Gérard Larcher. Gérard Larcher a demandé à ce qu'il ne revienne pas au Sénat. Et Joël Guerriot, en fait, à partir de ce moment-là, a continué à rester chez lui, comme s'il était encore en arrêt maladie, mais avec, malheureusement, la rémunération d'un sénateur, comme s'il travaillait. Je crois que c'est aux alentours de 7000 euros bruts. Il est toujours sénateur, il ne peut pas travailler parce que, d'une part, ses collègues ne veulent pas le voir au Sénat, et d'autre part, dans le département, il ne peut pas aller aux réunions auxquelles je suis parce qu'il n'a pas le droit de s'approcher de moi. Donc, il est chez lui en touchant toutes ses indemnités de sénateur. Donc, c'est comme s'il était en vacances. Et puis, il attend que les choses passent.
C'était La députée, le sénateur et la soumission chimique, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Alexandra Candy-Longuet. Merci bien sûr à Sandrine Josso, à Anne Thibierge et à Stanislas Florel, attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, notre stagiaire c'est Luce Mourant. Et sur notre site, vous trouverez un lien de l'émission que nous avions faite avec Caroline Darian, qui s'appelle je crois Caroline Darian et la soumission chimique. Serge, quoi?
raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée.